Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Vous savez qu'au fond des choses, chères auditrices, chers auditeurs, que nul ne pourra détourner le bon sens de la justice. N'oubliez pas que la justice, avant d'être un principe moral, impliquant bien sûr la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit, elle reste un sentiment préalable de paix, de sérénité qui s'installe chez l'individu pour le soulager et le mettre en harmonie avec soi-même. Alors le cas contraire, bien sûr, va créer une sorte de perturbation chez la personne qui agit injustement, et des fois ça se recule un peu plus loin dans l'inconscient pour surgir en surface en tout moment. Il est vrai aussi que certaines personnes trouvent leur compte dans l'injustice. Mais c'est une catégorie qui stagne à un niveau très accentué d'ignorance. Et je préfère de ne pas d'ailleurs rentrer dans les détails de ce sujet, mais ce que je voulais dire en définitive, c'est que entre la justice et l'injustice, il y a tout un fossé qu'on ne peut l'ignorer, ou bien passer sans l'apercevoir. Alors maintenant, revenons bien sûr à cette grève étudiante qui rentre dans sa 68e journée sans aboutir malheureusement à une solution, et une crise certainement qui se dégrade de plus belle, et vous avez tous constaté d'ailleurs aussi que comment le gouvernement gère ce conflit purement politique, il suffit aussi de voir ou d'analyser peut-être la réaction du gouvernement et plus précisément celle de son chef Jean Charest pour déduire la gravité de la dégradation. Forcer les établissements en grève de reprendre les cours alors que la majorité des étudiants ont voté librement, consciemment, majoritairement et démocratiquement d'être en grève. Ordonner à quelques étudiants, je précise ces étudiants peu minoritaires qui sont à l'encontre du gel des frais de scolarité, présente une image floue. Quelles sont réellement leurs motivations et qui est derrière eux et à quel prix? Comment peuvent-ils arriver à ce stade, à cet appui, à notre sens, trop injuste pour une cause aussi juste que celle-ci, la demande de gel des frais de scolarité? La rigueur, dans un conflit de cette taille, reporter l'exécution de cette nouvelle exigence, le temps d'avoir un vrai débat public sur la question, est-il une sorte de secours, ou plutôt aussi une sortie, si vous voulez, de secours sage de la part du gouvernement? Bref, entre imposer et convaincre, il y a une confusion majeure. Dans ce climat poussé dans la confusion, nous observons aussi et clairement le rôle des médias dans de telles crises, comment les grands médias déraillés à leur tour dans un parcours aussi défini. Ils essayent finalement de nous faire croire que Jean Charest gagne de plus en plus de points avec le prolongement de la grève et la détériorisation de la situation, alors que tout à fait c'est faux, le nombre des citoyens qui appuient solidairement les étudiants dans leur mouvement augmente de plus en plus. N'oublie pas que c'est la classe moyenne qui donne et qui domine aussi la société québécoise. Pensez-vous que cette classe moyenne souhaite réellement la hausse des frais de scolarité? Je le doute fortement. Maintenant, autant que parents, pouvez-vous me dire qui souhaite mettre des bâtons dans les roues de ces étudiants qui cherchent à poursuivre leurs études? Alors ce n'est pas l'opinion publique qui flâne, ou mieux dire domine l'atmosphère de ces jours, mais c'est plutôt les grands médias qui manipulent l'opinion publique pour appuyer la position du gouvernement. Les médias ici au Québec dépassent largement leur mission pour intervenir dans les champs qui ne relèvent pas définitivement de leurs compétences, fonte de failles et de faiblesses, bien sûr, politiques. Alors ce n'est pas le moment de vous parler des médias ici au Québec et de leur influence et leur ingérence politique. Nous pouvons bien sûr reprendre avec plusieurs exemples un de ces jours pour illustrer justement cette nouvelle réalité un peu amère à notre goût. Maintenant revenons toujours à l'image de celle que les médias ironiquement calculée en l'appelant la femme de fer, sachant que la ministre de l'Éducation, Mme Lynn Beauchamp, n'a rien de cette substance et encore moins de charisme ou d'attitude d'une personnalité politique. Madame Lynne Beauchamp est une marionnette malheureusement mise sur la scène politique par le Premier ministre Jean Charest. Vous la voyez, la pauvre, ridiculisée sur toute la ligne, paroles et gestes incluses. Moi personnellement, la pauvre, elle me fait pitié. La ministre de l'Éducation, Madame Lynne Beauchamp, refuse de rencontrer le co-porte-parole de la classe. Pourquoi, Madame la ministre, vous ne souhaitez pas rencontrer ce leader de l'association étudiante? Bah, écoutez la réponse de la ministre. Parce qu'il amène sur la table la gratuité scolaire. Et de ça, je ne veux pas entendre, bien sûr. Encore y a-t-il d'autres raisons, Madame la ministre? Oui, parce qu'il n'a pas accepté de condamner la violence. Et encore, Madame la ministre, qu'est-ce qui reste aussi? Rien. Alors pardonnez-moi, Madame la ministre, de vous dire que vous êtes complètement ridicule. Je souhaite vous rappeler aussi, chères auditrices, chers auditeurs, qu'en 1976, lorsque le Canada avait adhéré au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans l'article 13, et je cite, « L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. » Fin de citation. Alors la gratuité de l'éducation, c'est l'objectif à atteindre. Mais avec l'arrivée du gouvernement Charest, et surtout une fois qu'il est devenu majoritaire à l'Assemblée nationale, cette vision vers une éducation gratuite a changé rapidement de trajectoire. D'ailleurs, plusieurs d'autres pays ont tenu promesse, puisque la volonté d'aboutir à cette fin est-il été hautement sincère. Maintenant, entre lancer de la peinture sur le bureau de la ministre et causer, ou plutôt, si vous voulez, casser une vitre, et le nombre d'un côté d'arrestations abusives de ces étudiants qui manifestent pacifiquement, dans la grande majorité, l'intimidation, la répression, les attaques du gouvernement, planifiées ou non, de tous les côtés afin d'étouffer la voix étudiante, voir cette image en direct, on se demande franchement qui devra s'excuser. Je vous rappelle que cette grève avait débuté le 13 février de cette année, environ un mois plus tard et plus précisément le 12 mars 2000. Il y avait 2000 manifestants ont participé à une marche pour dire au gouvernement stop. Stop ici, ça veut dire recul, parce qu'une augmentation brutale de 75% pour les frais de scolarité, c'est un peu trop. Et finalement, je vous rappelle que présentement, il y a 175 000 étudiants en grève. Et nous devons être reconnaissants à ces étudiants qui tentent de renouveler le visage de la société québécoise. Au micro avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus du pouvoir. Comme d'habitude, dans le studio avec moi ce matin, j'ai mon collègue Roland Cazès, un militant de MAJ, qui appelle et qui appuie. Et vous allez voir fortement le mouvement d'étudiants. Il nous parlera également de l'affaire de la ville de Mascouche et les enjeux qui l'entourent. J'ai aussi M. Edgar Robin qui est présent aussi ce matin. Nous allons voir s'il souhaite intervenir. M. Robin est également un militant de longue date. Il reste à ma gauche aussi M. Henri Barnabé, un autre militant âgé de 73 ans. Il est venu nous parler d'un citoyen que nous avons présenté sur ce plateau il y a presque un an. C'est un chauffeur d'autobus qui a travaillé pendant 35 ans. Imaginez-vous 35 ans dans une boîte de conserve. 35 ans en train de rouler d'une place à l'autre. Et enfin, on vous mit dehors. Pourquoi? Parce que l'administration a changé de gestionnaire et vous ne faites pas l'affaire du reste. Après un licenciement, cet homme avait tout à fait ou presque essayé de faire valoir ses droits, mais malheureusement le poids de l'adversaire est plus pesant. Voilà ce qu'il va lui faire. Alors, cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Simplement, il va devenir malade, la gravité du stress va le rendre handicapé, et du côté, il passe aussi actuellement ses journées, si vous voulez, enfermées dans une chambre sombre, et progressivement, selon les dernières nouvelles que j'ai eues de lui, il a perdu l'esprit, les pédales en même temps. L'aide juridique a été refusée, parce que il n'y a pas les moyens et parce que, soi-disant, sa conjointe qui l'aide financièrement gagne plus que 28 000 $. Au Ghana, à peine, je pense, 28 000 $, c'est... nous avons aussi dans ce studio M. Barnabé, c'est un volontaire qui va essayer de l'aider. Donc, je vais juste présenter que M. Barnabé, il va nous parler justement de ce cas-là. Et voilà, donc après notre thème musical, nous allons reprendre des enjeux, d'abord de la grève étudiante, les arrestations de la ville de Mascouche et l'arbre qui cache la forêt, et finalement ce chauffeur d'autobus que je viens de discuter, qui ne peut plus se défendre faute d'une dégradation majeure de sa santé. Restez, chers auditeurs, à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un bas obscène est à la lune.
Voilà, donc gros bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc je passe directement vers mon collègue Roland Cazès. Vous avez devant moi, vous avez entendu qu'est-ce que j'ai dit à propos de cette grève qui dure depuis 68 jours. Et puis vous allez voir aussi la position du gouvernement et la position des étudiants et le courage des étudiants surtout. Qu'est-ce que vous, parce que vous reflétez pas mal un petit peu l'opinion, je dirais une grande majorité de l'opinion publique.
Voilà. Moi, je vais essayer de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre, en définitive, le système des étudiants. C'est comme si les électriciens étaient en grève, et là, on dit, on va faire voter les plombiers, ou bien pas l'électricien de troisième classe, non, les électriciens de deuxième classe, on fait un tri. Alors, c'est pas comme ça. Les étudiants, c'est des étudiants. La classe, c'est des étudiants. Les autres membres, tout ça, ce sont des étudiants.
Mais
c'est tous les étudiants qui doivent se prononcer.
Oui, ça, c'est d'accord. Mais pourquoi ils refusent la classe alors qu'ils, soi-disant,
de la part du gouvernement. Est-ce qu'ils prétendent avoir arrêté quelqu'un qui lui a fait des dégâts?
Oui, c'est ça.
Cette personne, l'avez-vous vu, vous? Personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu.
Mais ils ont arrêté.
Oui, ben c'est facile de dire on a arrêté, mais on ne le voit pas.
Non, mais est-ce que...
Je m'excuse.
Roland, une personne ou deux, arrêter une personne ou deux personnes par rapport à des centaines de personnes...
Ce que je veux essayer d'expliquer. Qui peut prouver que c'est la classe qui a fait les dégâts?
Tout à fait, oui, tout à fait.
Qui? Le cocktail Molotov, qui peut le prouver?
Et derrière qui?
Il y a une preuve à amener. Là, c'est des accusations gratuites. Alors, pourquoi? Pour diviser, pour régner. Mais pendant que l'on fait durer le mouvement étudiant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On nous raconte que le ministre lui-même fréquente la mafia, est financé par la mafia. Quand pourra-t-on mettre ce gouvernement en tutelle? Il faut le mettre en tutelle, ce gouvernement. Nous ne voulons pas voter pour que de la mafia vienne diriger notre pays.
Mais là, vous faisiez allusion aux corruptions
Bien sûr. Ce n'est pas le tout de dire on donne de l'argent pour les élections. Mais voyons donc, c'est de la mafia qui exige après. Et la preuve, nous avons vu le cas de la ville de Montréal.
Mais pour vous, vous êtes en train de dire, Roland, si je ne me trompe pas, et corrige-moi, c'est-à-dire toute cette histoire de prolongement, que le gouvernement, il ne veut rien savoir des étudiants, il veut que ça se prolonge pour cacher, vous voulez dire?
Voilà. Il y a, comme dirait M. Kadir, l'arbre qui cache la forêt.
Oui, c'est ça.
Alors, pendant ce temps, on prétend que les étudiants sont ci, les étudiants sont ça, c'est des mauvaises personnes. Mais regardez, si nous mettions dans les universités de langue française, gratuites, imaginez, nous venons de régler le problème de la langue française en même temps que nous réglons le problème étudiant. Ouais. Notre classe moyenne que nous formons avec l'université, ce sont les futurs payeurs.
Tout à fait.
Parce que les riches ne payent pas de taxes, les pauvres non plus. Ce sont la classe moyenne.
Tout à fait, oui.
Alors si on détruit la classe moyenne maintenant, on met le Québec en faillite pour l'avenir.
Oui, c'est ça.
Et il faut faire très attention. Savez-vous qu'une femme qui étudie un an à l'université, ça augmente le PIB du pays? Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va travailler à l'extérieur de chez elle. Elle ne va pas juste faire des enfants. Ouais. Elle va travailler et automatiquement, elle va augmenter le revenu de taxes du gouvernement.
Elle participe.
Alors, ce que j'essaye de dire, le gouvernement est complètement dans les patates. Et pourquoi il fait durer cette affaire? Et c'est aux citoyens de s'élever. Moi, je ne ferai pas voter les citoyens sur la cause des étudiants. Ce sont les étudiants qui doivent voter sur leur cause, leur propre cause.
Ben oui.
Regardez les recteurs qui se retirent et qu'on leur donne des 200 000, 300 000, 400 000 dollars. C'est dégueulasse. Ben. Regardez ce qu'on appelait la bâtisse voyageur de l'UQAM. Et que tous les étudiants se posent la question, que va-t-on faire avec cette bâtisse qui dort? Et pendant ce temps-là, on a payé des sommes exorbitantes pour faire ça, du béton, et puis là...
C'est la gérance, vous êtes en fait...
Alors, qui c'est qui a fait des profits là-dessus? Il est possible qu'il y ait des gens qui aient fait encore du dessous de table.
Oui.
Il y a un peu trop de corruption dans notre pays, il est temps qu'on commence à régler les affaires.
Un petit peu trop, oui.
Voilà. Moi, ce que je prétends, la corruption, c'est simple. On retire le plan de pension, il faut avoir la preuve, naturellement, pas à la légère. Oui. On enlève le plan de pension de ces gens-là, parce qu'il n'a pas travaillé pour notre gouvernement, il a servi deux maîtres en même temps. Ensuite de ça, interdiction de se présenter aux élections pour le restant de leur jour. Parce que nous ne voulons pas des gens corrompus, des gens, disons, de peu de personnalité, puis des gens dangereux. Dangereux. Oui, oui, lorsque vous les voyez se mêler à la mafia, lorsqu'ils payent un terrain 7 700 000, il est évalué quelque temps après à 10 millions, et puis là, il y a le gars de la mafia qui arrive, on lui donne pour 1 million, et puis l'autre mafia qui fait soi-disant les infrastructures, oui. Et ainsi de suite. C'est toute de la mafia, cette affaire-là. Depuis quand le gouvernement fait affaire avec la mafia? Il faut régler le problème immédiatement.
Oui. Écoutez, je comprends, Roland, votre point de vue, tout à propos de cette... C'est un énorme, énorme, énorme problème qui est malheureusement au niveau, à haut niveau, et qu'on peut trouver d'ailleurs, si vous avez vu ce qui s'est passé dans Mascouche la dernière fois, ça c'est vraiment, c'est un petit exemple. Alors allons chercher, si on peut aller chercher, fouiller un petit peu au plus fond, alors on va découvrir peut-être des choses encore plus grandes.
Le directeur des élections, il a une bonne main, lui-là. Ouais. Pourquoi qu'il ne peut pas aller vérifier le compte électoral de ses partis politiques? Comment ça se fait que M. Charest touchait 70 000 pièces par année en dessous de la table? Il servait tous les Québécois, et puis il y a un parti pris, quelqu'un qui lui verse 70 000 par année pour obtenir quoi? Des faveurs? Mais c'est déguisé, ça passe par le Parti libéral qui lui donne. Non, il y a des choses douteuses. Il y a des choses très douteuses. Il faut faire attention. Moi, je dis que ça prend une enquête. Tous les comptes des partis politiques doivent être auscultés de très près. On doit regarder d'où vient l'argent et qui verse ces sommes d'argent et quelle est la fréquentation du ministre. Je m'excuse, oui. Mais si vous travaillez pour une compagnie, pour moi, et que vous vous tenez avec la mafia, je vais vous montrer où est la porte. Oui. Et je vais vous dire, monsieur, dehors. Et je vous donnerai pas une prime pour sortir.
Alors, on va juste faire une petite pause musicale et on va reprendre avec notre émission d'aujourd'hui et avec notre collègue Roland Cazès dans son intervention. Restez à l'écoute.
Comme des pies avec les yeux rougis, cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux plis poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la messe foule grelottait en ce froid jeudi printemps, et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot, et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système, et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes, sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes. Comme des petits Che Guevara, ils ont pitché deux trois pétards. Les bœufs sont rentrés dans le tas, je jure qu'ils ont pas veillé tard. Les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jardin. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait des chiens jetés à travers le puits des sirènes, mais découpés par la fumée. Des gaz lacrymogènes ont mis en main l'aide de fils qui dansaient à poil sous la pluie, faisaient comme un remake de Grease. En version il vit quand le ciel s'est déchiré.
Voilà donc, bonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Je reviens avec mon collègue Roland Cazas pour lui demander justement à propos de toutes ces injonctions, ces agissements, les provocations si vous voulez du gouvernement à l'égard des étudiants. Comment vous le voyez vous là ?
Moi je serai professeur, je démissionnerai. Je vous le dis en toute sincérité. Ouais. Parce que ça commence à faire dur. Des policiers qui rentrent dans l'université et rentrez dans vos classes, là. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Est-ce qu'on est dans un état policier? Est-ce qu'on ne doit pas respecter au moins les professeurs qui veulent continuer à donner les cours?
Pour vous, c'est vraiment, c'est limite, c'est vraiment franchi, dépassé,
c'est franchir,
là.
C'est franchir, c'est dépassé. Ouais. Voyons ce que M. Gastonguet disait. Ouais. M. Gastonguet lui-même est insulté. C'est un libéral, M. Gastonguet. C'est lui qui a sorti la Gastonguette, la carte maladie, dans le gouvernement de M. Bourassa. Cet homme est posé, calme, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut négocier. Que ça soit oui, que ça soit non. Mais au moins, on s'assoit, on négocie. Oui. Et là, le résultat, on ne s'est pas entendu. Mais au moins, on s'assoit.
Un conflit politique, au moins, il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter parce qu'il faut trouver une sortie.
Mais on veut prolonger. Ouais. On veut prolonger la grève des étudiants. Ouais. Pourquoi? Rappelez-vous du lac Mitch. Oui. Les joueurs de hockey avaient rentré des filles mineures dans les douches. On parlait que de ça dans les journaux, mais on parlait pas du lac Mitch. Eh bien, c'est exactement le même topo. C'est-à-dire que pendant qu'on parle des grèves étudiantes, eh bien, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas au courant que votre ministre a fréquenté les mafiosi de certaines places, des terrains qui ont été vendus de 7 700 000 qui ont été payés par la ville de Montréal, par le maire de Montréal, encore un bon libéral. Hey, crème, on a des bons libéraux ici dans la province. Ouais. Je m'excuse. Ils sont pas tous pareils. Heureusement qu'on en a des bons. Je retire la chose, mais écoutez, ces terrains ont été donnés à des gens de la mafia parce qu'ils ont priorité. Mafia de la construction. À 1 million de dollars. Ah, on peut critiquer la FTQ, crime. Ils sont plus larges que la FTQ. Ils donnent les millions de citoyens à ces gens-là. Je m'excuse, mais on n'a pas supporté l'entreprise de monsieur XYZ de nom italien, de consonance italienne, et puis qui est mafiosi. Je ne suis pas raciste. Je suis contre la mafia. La mafia ne doit pas exister dans notre pays. La police devrait s'occuper de ça immédiatement.
Oui, mais surtout, vous parlez d'une manière générale du crime contre les crimes.
Mais ils ont descendu du monde, ils ont tiré du monde même. Oui. Vous savez, les familles d'une côté et de l'autre, vous savez comment que ça marche, la mafia italienne, vous avez la Camorra, vous avez...
Non, mais vous parlez d'une manière générale des crimes organisés, c'est ça?
C'est le crime organisé. Alors moi, ce que je prétends, c'est que notre police qui tape sur les étudiants, là, peut-elle s'occuper de ces gens-là?
Oui.
Et enquêter sur ces gens-là? Ils le font pas. Pourquoi ils le font pas? C'est parce que le gouvernement leur dit, levez le pied, là, ne faites rien. Alors, quand il leur dit, par exemple, les étudiants, il faut les écraser, ils écrasent les étudiants. Alors, voilà. On est rendu à ce point-là. Est-ce que vous trouvez que la situation est correcte? Moi, je demande la tutelle de ce gouvernement-là, la tutelle de la ministre de l'Éducation. Et ça va être du sport, vu qu'elle est elle est aussi ministre du sport. Ouais. Et oui, ça va être du sport. Écoutez, elle fait rien.
Non, mais c'est vrai, c'est frustrant, là.
Elle veut que les étudiants décident pour elle, elle veut que tout le monde décide pour elle, mais elle veut pas lui, elle veut elle, elle veut
ouais, mais elle, comme j'avais, elle, comme l'avait, j'ai bien cité.
Quand on négocie, on s'assoit.
Mais Roland, elle, vraiment, dans son cas, elle a été poussée, elle est poussée dans la scène.
Mais n'oubliez pas une chose, le gouvernement libéral se sert des femmes.
Ouais.
Alors, regardez toutes les femmes.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse?
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Reggae.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Salsa, reggae, comme
bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Alors bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir, les injustices dans notre société contemporaine. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, et je ne reprends pas le sujet peut-être. J'essaierai de revenir sur un deuxième sujet, celui de Monsieur Bernard Deschamps. C'est un résident, comme je l'avais déjà souligné au début de cette émission. C'est un résident qui a travaillé pendant 35 ans comme chauffeur d'autobus à la ville de Verdun. Et pas la ville de Verdun, dans la ville de Verdun. Non. Oui, et je sais qu'il est devenu, suite à son congédiement, donc il est devenu un homme énormément pauvre, dépressif, il est malade, et je préfère mieux de ne pas parler beaucoup de sa santé parce que ça fait vraiment pitié. Bonjour Monsieur Barnabé, bonjour. Henri Barnabé, vous êtes qui par rapport à ce monsieur-là, à Bernard Deschamps?
Moi, je suis un travailleur et puis j'étais syndiqué comme M. Bernard Deschamps. Il était syndiqué, il était président des TIMSA.
Lui, il était président des TIMSA.
Oui, des TIMSA. Ah,
et vous l'avez connu avant ou vous avez connu dans quel moment?
Pendant
qu'il était président.
Président des TIMSA.
Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur-là, toute sa vie, a basculé comme ça d'un seul coup? Travaillé 35 ans, il se retrouve dans la rue. Qu'est-ce qui est arrivé
d'abord?
Je vais juste préciser, excusez-moi, je soulignais qu'on n'a pas pu l'inviter aujourd'hui parce que l'état de santé de M. Bernard Deschamps, Bernard Deschamps, elle est vraiment critique. Alors, le monsieur, il est complètement dans son monde à lui, malheureusement, et il ne sait pas qui l'entoure et avec qui il parle. C'est ça, monsieur? Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est ça.
Fait.
Il est dans une grande dépression.
Revenons maintenant, pouvez-vous nous dire dans quel contexte vous l'avez rencontré et tout?
Mais le contexte, je l'ai rencontré, justement, ça va être la fête des travailleurs des Québécois.
Oui.
Des travailleurs et travailleuses, le 1er mai, et puis après ça, je l'ai rencontré.
En quelle année?
En 96. Puis en septembre 96 encore, ils ont toujours la marche de la paix dans le monde.
Et en ce moment-là, il était toujours président.
Oui, toujours.
Puis
il était
syndicat.
Actif.
Oui,
il était actif. Et puis aussi.
Comment vous le décrivez, vous, en ce moment-là?
C'est un homme d'opposition, qui respectait justement les travailleurs, et puis aussi qui avait aussi la bonne marche de la compagnie Transco. Parce que c'était avec lui dans, à sa
La compagnie Transco, elle regroupe plusieurs autobus.
Oui, justement, c'est avec ça qu'ils ont acheté, on pourrait dire, d'autres compagnies. Et puis, en fin de compte...
D'autobus scolaires, il faut le citer.
D'autobus scolaires. Puis, il y a eu en juin un changement dans l'agence syndicale. Les TIMSA ont passé à la CSN.
Oui.
Et puis, le 1er octobre, c'était la première convention collective de la CSN. Et puis aussi, la compagnie a fait un changement dans l'administration.
Oui.
Et puis, alors,
Suite à ce changement-là. Lui, il a perdu, il est devenu...
Non, mais il y a eu une nouvelle adaptation. On pourrait dire qu'ils ont mis plusieurs employés anciens mis à pied.
Oui.
Puis un de ceux-là, c'est un
On ne peut pas mettre quelqu'un à pied comme ça. 35 ans de...
Oui, mais...
C'est grave.
Mais parce que, Bernabé,
il y a quelque chose de très grave. C'est quand 35 ans de loyaux services, pas d'accident, un respect total des enfants, et attention, une autorité, parce que ça prend une autorité dans l'autobus pour mener...
Les
enfants sont... Alors, ce monsieur, moi, je l'ai connu dans le temps, un gentil monsieur avec sa dame, et moi, je sais que j'étais ami avec, et puis franchement, il me fait de la peine, il n'est plus le même.
Oui, je veux savoir comment, parce que vous ne nous avez pas expliqué comment en 35 ans, comme ça, on lui dort. C'était quoi la cause réelle, on lui dort, pourquoi? Parce qu'on lui reproche des...
Quand tu as le taux d'ancienneté, un jeune, on pourrait dire que tu engages, ça coûte à peu près 2%. à la compagnie.
Oui. Oui.
Tandis qu'une personne, on pourrait dire que de 20 ans à montant, ben lui, ça lui coûtait, à la compagnie, ça lui coûtait 12 %, on pourrait dire, comme les vacances, les choses.
Et vous, vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'à cause de ça, ils ont essayé de l'écarter.
Oui, ils ont
mais on ne peut pas écarter un syndiqué.
Ils ont mis, ouais, ils ont mis plusieurs employés dehors, oui. Et mis à pied plutôt.
Oui.
Et puis, lui, ils ont voulu lui aider. Ils ont dit, on va t'aider. Ils ont fait de l'aide. Mais son aide qu'ils ont fait, c'était oui. d'aller chercher de l'ouvrage à la CTSUM à Montréal.
Oui.
Et puis là, le monsieur, ben qu'est-ce que tu veux, il a trouvé que c'était pas sérieux.
Il s'est révolté, c'est ça?
Non, il s'est pas révolté. Il a dit, écoutez, là, ça fait 35 ans que je donne de ma vie ici. Vous oui. voulez à ça que je parte, parce que je suis trop vieux, puis aller chercher un job à une autre place, à la CTSUM des autobus de Montréal.
Oui. Il n'était pas si vieux que ça. Je m'excuse, M. Henri Bernabé, il ne faut pas...
Non, il y a 55 ans, monsieur.
Il y a 55 ans, c'est ouais. pas vieux.
C'est pas vieux.
Non. Mais attention, c'est depuis quel âge il a commencé dans cette compagnie, Transco?
Ben lui, c'est...
Son père a travaillé dans cette compagnie.
Son père a aidé justement à monter la compagnie.
À peu près. Ouais. L'âge de 20 ans, il a commencé?
Oui, 20 ou 19, 20 ans.
C'est que 35 ans de travail.
C'est toute une vie.
Oui.
C'est ça
oui.
qu'il faut dire. Mais il n'était pas vieux. Parce que vieux, là, c'est 85, 90.
Mais pas vieux, mais pour eux autres, c'est pas l'histoire de vieux. C'est l'argent qui parle.
Plus.
Non, mais je trouve qu'après le censement, le stress, le taux du stress, c'est tout ça, ce qu'il a réduit un petit peu.
Après le licenciement. Parce que, écoutez, la valeur d'un homme, c'est sur les années qu'il a passées.
Oui, tout à fait.
C'est sa base.
Tout à fait.
La compagnie ne reconnaît pas ça.
Voilà, mais la non, compagnie, non. Là, c'est les bons chapeaux.
Ils oui. ont changé de changement de syndicat. Oui. Et puis, pour se revenger de ce monsieur-là qui était président puis qui a aidé la compagnie à prospérer, ben ils ont fait ce job-là. Puis le monsieur a vu que ce n'était pas sérieux. Fait qu'à fin de compte, ils ont dit de prendre sa pension. Bien, le monsieur, il a dit, écoutez, on n'a même pas de fonds de pension.
Oui. Ah, il n'a pas de fonds de pension.
Non, il n'a aucun fonds de pension. Fait qu'il était de rire de lui. Va prendre ta fonds de pension. Ah. Ou bien non, ben prends ta retraite. Oui. Fait que là, le monsieur, si tu veux, ils ont essayé de le piéger. Même, ils ont fait des insinuations après 35 ans de service. Ils ont oui. fait des insinuations qui avaient des tendances.
Ah, oui, oui, des saloperies, quoi.
Eux autres, justement, qui ne pouvaient pas aller plus bas que ça.
Ouais. Ils ont tout fait pour le réduire.
Un bon père de famille et un grand-père à qui on fait ça, là, on insulte cette personne-là.
Oui, mais c'est justement quand tu fais affaire avec des enfants, ces affaires-là, et puis ils essayent, quand ils ne sont pas capables de trouver quelque chose, bien, qu'ils essayent à faire des insinuations en prétendant que le monsieur est civil ça après 35 ans qu'il y a une famille, tout ça.
Moi, je préfère même pas en parler, parce que c'est de la saloperie.
Il y a une chose,
c'est la saloperie.
Ils ont fait de la saloperie, OK?
Ouais.
Fait qu'ils l'ont induit. Après ça, bien là, ils ont trouvé des problèmes, que c'était n'importe quoi. Même un autobus qui était barré, le monsieur a refusé de prendre l'autobus parce qu'il était barré, parce qu'il y avait dans la compagnie qui disait quand un autobus est barré, c'est parce qu'elle était pas sécuritaire ou bien non qu'il y avait un problème.
Un problème, donc il faut pas la prendre, quoi.
Il faut pas la prendre.
Ouais. Puis dans la compagnie, il était consciencieux, il était très consciencieux.
Ben oui, c'est pour ça.
Moi, je l'ai connu dans le temps, il était très consciencieux. Oui.
Le monsieur, il avait un travail de scolaire pour les enfants, puis le soir, pour boucler, on pourrait dire, le
la
budget,
boucle, oui.
Le budget, ben, il faisait ou les fins de semaine, il transportait des personnes âgées, ou bien là, il faisait du travail comme ça, par la compagnie, comprends-tu?
Oui.
Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, il a dit, l'autobus n'est pas sécuritaire, fait que... Donnez-moi un autre autobus. Elle a refusé de prendre qu'il donnait un autre autobus. Fait que lui, il a tenu la madame responsable, Madame Chantal Hébert, il l'a tenu responsable.
Oui.
Il a dit, s'il arrive de quoi? Mais, en fin de compte, il a pris l'autobus, il est arrivé 2 heures en retard. Le 29 de décembre 2009, il est arrivé 2 heures en retard. Fait que ces gens-là qui attendaient...
Parce qu'il n'a pas pu prendre l'autobus à l'heure.
Il n'a pas, justement.
C'est ça. Donc, il est arrivé en retard.
Il a fait une vérification pour faire ci, pour faire ça.
Enfin.
Puis débarrer l'autobus. Et puis, il a passé pour que la personne ait barré son autobus, il fallait qu'il passe par l'intérieur puis qu'il sorte par la porte arrière de la porte de sécurité. Fait qu'en fin de compte, quand il est arrivé là-bas, ces pauvres gens qui attendaient soit à l'intérieur ou dehors, le 29 décembre, je pense que c'est dans le temps des fêtes, et puis qu'il faisait très froid, ben il était pas trop de bonne humeur.
Ben oui, il y a
fait
de froid.
Fait qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé?
Vous voyez, je m'excuse, je vous interromps. Ouais. Vous voyez, M. Henry, moi, ce que j'estime, c'est que ce gars était responsable, était conscient. Il transporte des enfants, il ne veut pas qu'il leur arrive du mal.
Voilà,
parce qu'il veut répondre devant les parents. Mm. Il se met à la place des parents, donc c'est une bonne personne. Il ne voulait pas prendre un autobus qui était en mauvais état.
Monsieur Barnabé, excusez-moi, vous, lui, j'imagine qu'il est parti, il était allé voir les tribunaux et tout, mais j'ai bien compris qu'à un moment donné, il ne pouvait plus poursuivre avec les avocats parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir l'aide juridique. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est, et c'est, finalement, c'est vous qui le représentez devant le tribunal.
Bien, on était voir le syndicat de la CSN, on a essayé de partir. On pourrait dire quand il y a eu un licenciement le 26 avril 2010, bien là, le monsieur, bien là, on a rencontré, on a venu à bout de rencontrer le syndicat à peu près dans dans le mois d'août. Ouais. Mais à partir, il y a trois dates à retenir. Il y a le 23 juin, il y a le 17 d'août, et puis il y a le 28 de septembre. Ces trois dates-là, pour lui, c'est réellement là, dramatique. Parce que le 23, il avait été refusé par l'assurance chômage de le payer parce qu'il avait été congédié.
Oui, par congédiement, oui.
Soi-disant pour mauvais travail, alors que c'est pas vrai. Par faute de
et puis la deuxième date,
Là, c'est là que le monsieur a reçu l'assurance chômage, le Service Canada, il a envoyé une brique parce que là, on a contesté la décision du tribunal.
Et
le 17, là, on a su une brique comme quoi que tout ce que qu'il reprochait au monsieur. Mais le monsieur, il y a eu juste une lettre de suspension. Oui. Ça a été le 6 de janvier, qui a été produit le 25 de janvier. Après ça, bien, le 25 de janvier, là, il a reçu des lettres que lui a même pas eu, mais qui a pris connaissance juste le 17 d'août.
Ah oui. Oui, mais M. Manabé, reviens maintenant un petit peu à la chose. Pourquoi il n'y avait pas un avocat qui peut le représenter?
Bien, donc, à dire, c'était un dossier qui était tellement...
Complexe.
Ouais. Je peux te dire une chose. Moi-même, quand j'ai regardé dans le dossier...
Vous n'avez pas des notions de juriste. Vous avez pas de...
Il y a une chose surpris. Je m'excuse. Il y a une chose où vous serez surpris. Vous savez que M. Bernard Deschamps, je le connais depuis très longtemps.
Ouais.
J'ai connu Mme Le Foul aussi, qui travaillait pour Transco. J'ai connu une autre dame qui travaillait pour Transco. Et puis, ils avaient des problèmes. Il arrivait parfois qu'on cachait l'autobus de façon à ce que la personne ne le trouve pas.
C'est ça ce qu'il me disait, M. Deschamps,
dans le temps. Vous dites des tas de tours comme ça, entre collègues là, qui se jouaient, là, des mécaniciens qui jouaient des tours comme ça, et ils lui en ont joué, M. Deschamps.
Mais oui, c'est justement...
Et puis moi, c'est les autres qui me l'ont dit, qui ont été aussi mis à pied.
Alors, M. Barnabé, pour se débarrasser de lui, ils ont pris tous les moyens possibles et impossibles.
Ils ont monté des coups, ils ont provoqué des choses, même avec la personne responsable du garage, et puis aussi avec monsieur...
Ça, on a compris. Et finalement, il n'arrive pas à convaincre un juge comme quoi il était quand même... Il y a un problème réel.
Ils ont abusé de ses droits, définitivement.
C'est justement parce qu'il était voir son syndicat, puis il a demandé, ils ont fait un grief, puis là, ça continue pareil, justement, de cacher son autobus. Et même, il y a eu de... À 5 heures du matin, il s'est levé une fois, puis son autobus n'était pas là. Il a été revoir la Mme Chantal Hébert, puis Mme Chantal Hébert, elle a dit, votre autobus est là, a téléphoné aussi le gars du CB, puis le gars du CB dit, oui,
il est là.
Il est là, mais il dit pas la place, rien pour tout.
Ouais.
Fait que le monsieur retourne, puis l'autobus, il est revenu, il était en beau maudit, il n'était pas là. Fait que le temps qu'il était avec les chauffeurs d'autobus, Mme Chantal Hébert, elle a sorti de la bâtisse, elle était dans la cour, elle est revenue, puis elle a dit, ton autobus était dans le fond de la cour, d'où que vous l'avez placé la veille.
C'est faux.
Et puis, en fin de compte, là, qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur, il a dit, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas... L'autobus n'était pas là. Quand il y a eu la rencontre, Mme Chantal Hébert, là, elle s'est piégée elle-même. Parce qu'elle a dit, le monsieur, il a dit, écoutez, mon autobus a été déplacé. Oui, mais elle dit, avez-vous fait un rapport d'incident? Il dit, non, je n'ai pas fait d'avoir un rapport d'incident parce qu'il n'y en avait pas. Puis l'autobus était en ordre. Fait qu'à fin du compte. Mais elle, c'est la répartitrice. Elle sait que les autobus, quand elle les donne le matin, ils sont oui ou non.
En état.
Alors, M. Barnabé, lui, il s'en va dans le coin à chercher son autobus. Son autobus, il n'est pas là. Il retourne, il revient pour leur dire, écoutez, mon autobus, il n'est pas là. Enfin, ils vont dire, mais oui, il est là. Alors, eux, ils vont partir pour revenir et dire, mais votre autobus, il est là. Mais dans le fond, son autobus, il n'a jamais été là.
Non.
Alors, aujourd'hui, on sait aussi que toutes ces situations, c'est un petit exemple que vous avez aujourd'hui. Et on sait que finalement, M. Bernard Deschamps, aujourd'hui, il n'est pas là dans sa tête, là. Il est devenu presque... Si vous permettez...
Il
est dans son propre monde à lui, c'est ça? Et aussi, il est handicapé, ce sujet.
Oui,
compris aussi.
il a fait un genre de RCV. À partir du 26 d'avril, aller jusqu'au 1er octobre, ce monsieur-là a perdu 50 livres.
Ah.
50 livres.
Oui.
Fait que, l'alentour dans le mois de septembre, il a été voir son médecin, puis son médecin, il a trouvé ça, que c'était plus la même personne, oui. Et puis tout ça. Et puis là, il a compté, il a demandé qu'est-ce qu'il y avait, il avait dit qu'il y avait des problèmes. Fait que son médecin l'a référé à des spécialistes, et puis aujourd'hui, il l'a référé parce que les machines, justement, du cerveau, puis tout ça, passaient à Douglas.
Tests, oui. Oui.
Et puis quand on a passé à la cour, mais la cour s'est juste penchée sur les dires de la compagnie, ils sont même pas penchés sur les dires de monsieur.
Et sur le fait que lui, il a consulté à l'hôpital Douglas, ah ben là, on lui reproche comme quoi il n'est pas normal.
Ben, ouais, là, ils ont dit,
mais non, c'est parce que les appareils de test sont.
Oui, je comprends, mais juste le fait d'aller à l'hôpital Douglas, ah ben le monsieur, là, il est pas normal, c'est
ben
ça?
Oui, donc, ben là, oui. C'est pour ça qu'il y a un des trois commissaires qui est allé en avant, il a dit, on va attendre. Il y a une raison pourquoi que le monsieur y était à Douglas.
On va vérifier qu'est-ce qui s'est passé à Douglas.
Oui, voilà. Par les spécialistes. Mais
est-ce qu'ils ont respecté cette
décision? Non, ils n'ont même pas respecté cette
décision. Alors, ils ont pris une décision à l'encontre de ça.
À l'encontre de ça.
Voilà.
Puis même à l'encontre de son médecin traitant.
Avant de revenir avec vous,
monsieur Bernard, si vous allez voir quelqu'un en prison, méfiez-vous. Vous êtes un gars qui fréquentait les prisons.
Oui, mais je veux savoir, monsieur Roland. Maintenant, il y a un contraste là qui m'échappe complètement. On part d'un côté où il y a les enveloppes brunes, la corruption, l'argent qui circule, le blanchiment d'argent et tout ça, des milliers et des gens honnêtes qui ont travaillé, qui ont servi la société pendant 35 ans de travail.
Ils
se retrouvent comme ça, réduits comme un chien.
Comme un chien. Ah oui, c'est le dire.
Comment vous voyez ça?
Moi, ça m'insulte parce que, vous savez, après ça, on dit, tiens, il ne fait pas son travail, lui. Ben oui, quand ils font leur travail, ils sont balancés, ils sont jetés dehors. Quand vous êtes trop conscient de votre problème. J'ai connu ce monsieur, oui. J'ai fréquenté ce monsieur dans le temps, oui. Et moi, je vais vous dire une chose, il était très gentil, il était agréable, il était très bien, mais aujourd'hui, je ne le reconnais plus.
Oui.
Il a fait une dépression nerveuse, ça l'a mis complètement à terre, il a fait un ACV et tout. Alors, imaginez-vous, c'est parce qu'il se dit tout d'un coup, je suis un pas bon.
Oui.
Ils ont fini par lui faire entendre qu'il était un pas bon.
Pas bon, exactement.
Après 35 ans de service, loyaux service, sans accident.
Ouais.
N'oubliez pas ça, sans accident.
Alors c'est la récompense finale d'un individu,
d'un être humain,
par la société, notre société.
Je veux juste dire un mot. Ouais. Même en plus de ça, il a pas accepté, mais il a été chercher du travail ailleurs.
Oui, mais.
Et puis quand il était chercher du travail, la compagnie,
il a donné de mauvaises références.
Il a des références. Il a dit ça fait 35 ans que je travaille pour cette compagnie-là. Ouais. Fait que le monsieur, il dit c'était stable. Ils ont téléphoné à la compagnie Transco. Puis la compagnie Transco a dit. Ne l'engagez pas parce que c'est un gars à problème.
Et voilà.
Un gars à problème.
Mais pendant 34 ans, 35 ans, on n'a jamais de problème.
Non, jamais.
Et à 35 ans, d'un seul coup, là, il devient un problème.
Ah ouais.
Un problème plus qu'un problème. Là, ils l'ont rendu malade, ils l'ont rendu inapte.
Voilà comment on détruit quelqu'un.
Est-ce que présentement, M. Deschamps reçoit quel que soit de l'argent du, je sais pas moi...
Rien du tout.
Depuis combien de temps il reçoit rien, M.
Ben, depuis le 14 avril 2010.
Depuis 2010 jusqu'à présent, il ne reçoit rien. Pas de l'aide sociale.
Ben non.
Regardez,
parce
imaginez-vous,
que sa femme gagne trop.
Imaginez-vous la valeur d'un homme qui vit sur le bras de sa femme.
Aujourd'hui.
Imaginez la blessure de cet homme-là, l'orgueil,
l'atteinte. Je veux savoir aussi, Roland, à propos de sa conjointe, elle est quand même forte aussi, sa conjointe, ils lui ont refusé justement
de
l'aide
mérite.
Juridique, ils ont refusé de l'aide juridique, si je me trompe
pas,
parce que sa femme, elle gagne...
Elle gagnait plus que 25 000, elle avait le droit, elle gagne 28 000.
Elle gagne 28 000 $ et elle s'occupe d'elle et de ce monsieur-là, qui était autant toute sa vie, et il devient indépendant à sa femme-là, et il ne reçoit rien.
Plus d'orgueil, plus de fierté. Moi, je le sais, il se dit pas bon. Dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, il se dit pas bon. Alors qu'il a travaillé fidèlement pendant 35 ans pour une compagnie, qu'il a pris soin des enfants, qui était important de prendre soin des enfants, parce qu'un autobus allait sans frein, c'est dangereux. Mais lui, là, il fallait que l'autobus soit en état, puis il a toujours été ponctuel.
Mais moi, je l'avais parlé.
Jamais une journée de maladie,
la journée maladie, il y avait même un record qu'il n'y avait pas de journée de maladie, qu'il ne prenait pas ses journées de maladie.
Il ne prenait pas ses journées.
En tout cas, il y avait droit à 7 journées de maladie. Puis dans l'année, avec tous les problèmes qui ont occasionné à ce monsieur-là, il a pris juste 2 journées de maladie.
Mais avant, il n'a jamais voulu accepter
Il prenait peut-être même pas une journée de maladie, ce monsieur-là.
Non, c'est pour dire que ce gars-là, c'est un gars qui s'est donné corps et âme. Oui. C'est le cas de le dire.
On a un problème.
Et là, on lui a arraché le cœur, on lui a arraché l'âme. Mais il n'a plus rien.
On a un problème. Mais ça, c'est un exemple. Eh oui. On discute aujourd'hui. Combien de personnes comme Bernard Deschamps circulent ou se retrouvent ici au Québec?
Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Des collègues qui travaillaient avec eux, qui ont été mis à pied, que je connais très bien, que j'ai aidé dans le temps. Vous êtes venu avec moi, une dame qui est dans un centre de personnes âgées. Vous êtes venu avec moi la rencontrer, tout ça. Mais ils ont travaillé avec lui et puis ils disaient que c'était un bon gars. C'était un bon gars. Il y avait pas de problème.
Même
il était steward.
La directrice, elle était réellement surprise quand la compagnie disait qu'il y avait des tendances.
Ben, elle a dit, voyons ça, là, je veux même pas en parler.
Non, mais c'est pas j'en viens parce qu'il peut pas aller plus bas que ça.
Ah non.
Ben, écoutez,
abaisser un père de famille.
C'était un bon père de famille puis un bon père.
Excuse-moi, on va juste passer à faire une pause musicale et on va revenir avec le mot de fin et en même temps voir comme dernier mot qu'est-ce qu'on peut dire pour cette émission d'aujourd'hui.
Savoir d'où si tu reviens, où si tu t'en vas à cette heure-là, t'as-tu des preuves de ça? Monte tes papiers, puis reste poli, on pourrait t'embarquer. Où si tu travailles, c'est qui tes chums, qu'est-ce que t'as fait de ta soirée? T'as-tu quelque chose à dire, t'as-tu quelque chose à t'approcher? Cherche comme tout le monde, y'a sûrement quoi que t'as fait de pas correct. C'est quand t'as fait pour vérifier, qu'est-ce que t'as-tu fumé? On est la loi, nous autres, il faut qu'on soit bien renseignés.
Voilà, donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, j'aimerais bien revenir maintenant avec cette histoire, peut-être la fin, quelques mots de fin de cette histoire-là, de cet individu-là.
Moi, je tiens à remercier Mme Suzanne qui a mis la belle musique, moins fort, quand on pourrait nous entendre. Ouais. Et je l'offre à M. Charret.
Ouais, voilà. Mais laissons un petit peu la musique de côté, mais j'aimerais bien revenir au cas de M. Bernard Deschamps. Pour vous, M. Barnabé, qu'il a quand même, vous l'avez représenté, vous l'avez appuyé combien d'années depuis qu'il a ce problème-là, j'imagine.
Ah oui,
et je vous vois toujours avec, se déplacer avec un gros dossier, son dossier. Et vous le connaissez, j'imagine, ce dossier-là de A à Z. Et vous consacrez tout ça bénévole.
Oui, mais qu'est-ce qui me fait de plus de peine, c'est parce que j'ai pas la capacité justement, puis je sais que ça, c'est une chose d'avocat, puis ils nous l'ont barré complètement, autant du gouvernement que de son syndicat.
Alors vous comprenez très bien, chère auditrice, chère auditeur, si parmi vous il y a un avocat qui est en retraite aujourd'hui et qui veut vraiment aider cette personne-là, vous pouvez nous appeler au 514-273-4302, 514-273-4302, il a énormément besoin d'aide.
Puis on passe le 30 de mai à commission.
Vous passez 30 minutes en commission, oui. Mais vous allez, là, c'est toujours vous qui va le présenter.
Ben,
parce qu'il n'y a personne.
Il n'y a personne.
Et vous avez énormément de difficultés à se retrouver dans le
monde. Je m'expliquer, puis il n'y a pas eu une pleine défense.
Ah, c'est un labyrinthe, là, où c'est qu'ils essayent de perdre tout le monde.
Roland, pour un petit peu vers la fin de cette émission-là, j'aimerais bien que je vous laisse un petit peu, tu me dis un mot à propos comment vous encouragez la mouvance étudiante pour participer, pour continuer son combat.
Oui, il y a une chose, c'est que les étudiants ont voté en majorité. Il y a un article 4 qui dit comment ça se fait qu'on puisse présenter une injonction contre des étudiants.
Oui.
Voyons, les étudiants ont voté en majorité, là. C'est pas les plombiers, c'est pas les électriciens, c'est les étudiants.
Oui, mais quel est
ce qu'il faut faire, une fois pour toutes, comment peut-on... Ah oui, normalement, le gouvernement nomme les juges. Alors, il y a le juge est parti, là, il y a quelque chose qui marche pas. On peut pas présenter une injonction contre des gens qui ont voté en majorité. Alors ça, c'est la révolution dans le pays. Depuis quand c'est une dictature qu'on a là?
Alors, aussi, dernière chose aussi, les médias, ils disent toujours que, comme quoi, Charest gagne des points, et c'est faux. Comment vous voyez rapidement aussi la position des médias dans tout ce qui se passe là?
Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que les médias sont influencés. Quand Radio-Canada sont menacés de débaucher, je ne sais pas combien d'employés, quand on ferme des postes et tout ce qui s'ensuit de la part du fédéral, et les autres se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Voilà. Il y a une contradiction au milieu de ça quand ils disent qu'il y a 100 000, puis il y a 200 000 participants.
Voilà.
Puis... Il y a
on impose
raison.
Des choses.
Voilà, donc on encourage et on appuie, on continue à appuyer solidairement le mouvement des étudiants.
Oui, je tiens à remercier qu'on m'ait pas mis le baillon ici pour dire la vérité aux citoyens.
Merci. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je souhaite remercier mes collègues qui sont devant moi. Roland Cazès pour sa participation, M. Barnabé aussi pour sa participation. Edgar Robin qui est devant moi et qui a pas voulu dire rien pour le moment. Je souhaiterais aussi remercier notre technicien de son, Suzanne de Radio Centre-Ville. Je le remercie énormément, parce qu'elle fait beaucoup pour nous. Voilà, donc je veux dire aussi merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre d'avoir été à l'écoute. Et pour moi, je vous dirai tout simplement, je vous donnerai rendez-vous et à la semaine prochaine, à la même heure. Merci, au revoir.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles,
mardi, minuit 30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide? C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.